tournant les pages de la Bible, en lisant tous les récits, on s'aperçoit que toutes sortes de personnages bibliques ont menti, effrontément menti. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Et n'oubliez pas que le livre de Dieu, qui est entièrement inspiré, qui est là pour nous instruire en toutes ses parties, nous instruit aussi par des exercices. Oui, Dieu nous fait faire des exercices. Et en somme, ce vers quoi vous avez été dirigé, c'est pas autre chose qu'un exercice. Il s'agit de comprendre, en effet, ce que le mensonge vient faire là, dans le livre de Dieu. Nous avions peut-être trop l'idée que le livre de Dieu ne devait représenter à nos yeux que des choses vraiment belles, empreintes de sainteté. Or, il se trouve qu'il y a pas mal, beaucoup même, de choses laides et vilaines. Mais tout cela nous est donné pour nous instruire. Alors nous allons voir en effet les différents cas de mensonges, puisque tel a été le fil conducteur de l'exercice que le Saint-Esprit vous a proposé. Tout ça pour nous instruire et nous former. Former nos cœurs, former nos esprits. Ce n'est pas un exercice d'intelligence, c'est un exercice de cœur. Il s'agit de former nos cœurs et nos esprits et de comprendre la manière de Dieu, de comprendre quelle est la voie de Dieu, la voie de ses desseins, à quoi conduisent ses desseins, comment Dieu a conçu lui-même ses desseins. Il s'agit de reconnaître tout cela. Il faut que nous soyons, en somme, nous ayons de la connaissance sur Dieu et de la connaissance de Dieu. Et cela, nous pouvons l'avoir que par la révélation. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui nous révèle le Père. Et il nous révèle le Père, non pas dans une connaissance, disons, métaphysique, mais il nous révèle le Père dans toutes ses hautes qualités, ses grands caractères, et il nous révèle le Père aussi dans ses œuvres qui sont parfaites, nous dit l'Écriture, sont admirables. Alors, les œuvres de Dieu, les desseins de Dieu, il faut comprendre, en somme, la pensée de Dieu qui a conduit ses œuvres non pas d'une façon en ligne discontinue, mais au contraire, à travers les ans, il y a une ligne bien nette, bien droite, qui caractérise la suite, l'implantation des desseins de Dieu pour arriver au grand but que Dieu s'est proposé. Et ce but, c'est de conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles, c'est-à-dire beaucoup d'hommes et de femmes qui sortent de ce monde épouvantablement pécheur, épouvantablement perdu, taré, éloigné de Dieu, séparé de Dieu. Il s'agit de les reprendre, il s'agit, après réconciliation, les préparer au royaume éternel, les conduire à la gloire, les préparer à entrer, quand le temps sera venu, dans le royaume éternel. Je voudrais ajouter aussi ceci, c'est que il ne s'agit pas en expliquant, en essayant de comprendre plus exactement, c'est plus qu'expliquer, en méditant sur les mensonges que nous rencontrons dans l'Écriture, il ne s'agit pas de justifier la chose. Il ne s'agit pas de sainte nitoucherie, comme l'a dit Daniel, n'est-ce pas, ce qui serait une attitude fausse, hypocrite. Non, si quelque chose nous heurte, laissons-nous heurter. Mais disons, si ça nous heurte, c'est pour que nous comprenions quelque chose. Il y a quelque chose à comprendre. Donc, nous ne cherchons pas à justifier, nous cherchons à comprendre, à pénétrer et à voir pourquoi des gens mentent sans que Dieu fasse immédiatement tomber sur leur tête quelque châtiment. Je voudrais dire aussi en entrée ceci, c'est que d'une manière générale, représentez-vous bien que le plan de Dieu pour sauver l'homme, sauver, il s'agit de ça, sauver l'homme, l'homme pécheur, l'homme taré, l'homme qui est, depuis la chute, dans l'incapacité d'accomplir la volonté de Dieu. La chair ne peut pas accomplir la volonté de Dieu, elle ne le peut pas. Ne lui demandez pas, il ne le peut pas. Donc l'homme naturel, qui n'a pas rencontré Jésus-Christ, est incapable d'accomplir la volonté de Dieu, donc d'obéir. Il est incapable. Et cet homme, Dieu veut le sauver. Et tout en lui laissant sa liberté, c'est-à-dire sa spécificité dans la création. L'homme a été créé libre, il faut qu'il reste libre. Si on lui ôte sa liberté, tant soit peu, on change sa nature, et Dieu ne le veut pas. Donc, sauver l'homme pécheur, séparé de Dieu, tout en ménageant sa liberté, c'est un grand art. C'est très difficile, il n'y a qu'un Dieu qui puisse faire ça. Il va falloir justifier, mais une fois justifié, nous savons comment, n'est-ce pas, par l'œuvre de Jésus, une fois justifié, il va falloir sanctifier, continuer à sanctifier cet être-là, pour que le bénéfice de la justification ne se perde pas. Mais au contraire, que cet homme aille de progrès en progrès, s'engage dans le perfectionnement des saints pour arriver à la sainteté parfaite. Parce qu'il n'y a que dans la sainteté qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a rien d'impur, rien de souillé, rien du tout. C'est la sainteté de Dieu lui-même qu'il faut avoir revêtue. Et c'est à quoi nous sommes portés. Bon, et pour atteindre ce but, eh bien, Dieu s'est pas résolu à moraliser l'homme. C'est pas du tout dans la vue de Dieu, ça, moraliser l'homme. Moraliser l'homme, non, ça ne sert à rien. Moraliser l'homme, ça aurait été vouloir convaincre la chair et amener la chair à obéir à Dieu, et je viens de dire que c'est impossible. La Bible dit que c'est impossible. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Bon, par conséquent, et puis dans Romains 8, il nous est dit que la chair ne peut pas accomplir la volonté de Dieu, ne lui demandons pas, elle ne le peut même pas. Bon, alors par conséquent, moraliser, ce serait s'adresser à la chair. Et ça ne peut pas, c'est pas ça qu'il fallait faire. Pas du tout, ça ne peut pas entrer dans le dessein de Dieu. Par conséquent, Dieu ne cherche pas à moraliser l'homme. Ce qu'il veut, c'est le rapprocher de lui, c'est opérer quand le moment sera venu d'introduire le premier-né, d'introduire le sauveur dans le monde, alors par l'œuvre du sauveur, de réconcilier l'homme avec lui-même. Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même, le réconcilier, et une fois réconcilié, pas le moraliser davantage, mais le transformer et de gloire en gloire l'élever jusqu'à la sainteté, jusqu'à la ressemblance à Jésus-Christ. Vous voyez, c'est clair. Donc, la moralisation, non. On peut dire que sous l'ancienne alliance, alors que le peuple d'Israël était sous le régime de la loi de Moïse, Dieu, l'œuvre de Dieu, l'intention de Dieu n'était pas de placer l'homme sous une loi morale. La loi était donnée pour autre chose que pour moraliser l'homme. Ça, on commet une erreur avec ça. Et nous, dans le christianisme, nous avons été un peu trop habitués à ce qu'on nous parle d'une morale chrétienne. Le Seigneur Jésus n'est pas venu apporter une morale chrétienne. Je dis que la moralisation n'est pas dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, le monde entier rejette la morale. Mais en cela, il n'a pas raison dans ses motivations, mais en fait, il fait quelque chose que Dieu a déjà fait avant lui. La morale n'est pas le moyen. Plus l'apôtre Paul nous démontre bien dans les Romains que plus vous dites, vous amenez de loi, plus vous amenez la loi, plus vous provoquez une réaction de la chair qui fait pécher l'homme. Le péché abonde. Et il faut que la grâce surabonde. C'est la grâce qui va faire l'œuvre. Et ce n'est pas la moralisation. Donc, ne vous étonnez pas que devant des mensonges, et puis, si nous étudions la parole, l'Ancien Testament, de façon suivie, nous trouverions bien d'autres fautes d'ordre moral que le mensonge. Eh bien, nous ne voyons pas Dieu châtier ces actes-là. Parce que, je vous dis, la raison essentielle, c'est que Dieu ne veut pas, n'entend pas moraliser. L'homme, ça ne sert à rien, ça ne peut produire aucun effet, sinon au contraire, l'effet contraire, hein, puisque Paul nous dit, quand la loi, il n'y avait pas de loi, je vivais, et puis quand la loi vint, je mourus. Et le commandement produisit en moi, quoi donc ? Eh bien, une réaction dans le sens du péché. Le commandement me fit mourir, et le commandement excita en moi le désir de péché. Voilà ce que fait la morale. Et pourquoi la morale échoue? La morale a peut-être eu certaines utilités au milieu de notre société, je ne veux pas en discuter. Il était peut-être bon qu'elle traduise d'une certaine manière ce que le livre de Dieu dit pour la connaissance des hommes. Bon, mais ce n'est pas un moyen d'action, la morale n'est pas du tout le moyen d'action de Dieu. Nous allons voir le mensonge rapidement, l'un des deux mensonges au sujet de Sarah, que Abraham fait passer pour sa sœur. Nous avons dit que c'était dans le chapitre 12, au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. C'était au verset 10, oui. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et ils te laisseront la vie. » Dis, je te prie que tu aies ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive. Ça, c'est terrible. Alors, le mensonge, vous voyez, en plus, n'est-ce pas, il sacrifie sa femme pour sauvegarder sa petite santé, n'est-ce pas, et être sûr de ne pas être tué. Les Égyptiens virent que la femme était belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit « c'est ma sœur »? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Ce n'est pas glorieux pour un prophète de Dieu que d'être mis à la porte de cette façon. Voyons en somme rapidement cette épreuve de la famine et du mensonge qui suit. Abraham part en Égypte pour fuir la famine. Il part en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Mais il part en Égypte. Qui lui dit de partir? C'est pas l'Éternel. C'est lui. Lui qui se donne cette solution. C'est une résolution d'Hachère. C'est une résolution de l'homme. L'homme se dit, la famine est là, ça va durer certainement très longtemps, les troupeaux n'ont plus rien à manger, bon, en Égypte, il y a tout ce qu'il faut, allons vite en Égypte, rendons-nous en Égypte. Bon, voilà donc une résolution de la chair qui ne pouvait qu'être déplaisante à l'Éternel, parce que ce qu'Abraham aurait dû faire, c'est dire au Seigneur ceci: Seigneur, je viens de quitter mon pays, ma patrie, la maison de mon père, pour aller là où tu me dis, j'y suis, je suis venu sur ton ordre, tu ne m'as pas dit autre chose, je ne sais pas maintenant où tu veux me conduire, ce que tu veux faire de moi, je suis là, je ne bougerai pas tant que tu ne me diras pas toi-même où je dois aller. Si je dois rester ou si je dois aller, je resterai là, dussé-je mourir sur place à cause de la famine. Savez-vous ce qui serait passé? La famine aurait cessé. La famine aurait cessé. Mais voilà que, ça c'est là qu'est d'abord le premier moment de l'épreuve. Alors, un raisonnement de la chair. Alors, une fois engagé dans une direction qui est venu de la chair, Abraham ne peut que continuer dans cette même direction. Vous voyez, il est engagé. Il a pris une résolution, lui-même, par un raisonnement humain, indépendant de Dieu, sans consulter Dieu, sans connaître la volonté de Dieu. Il a pris une résolution d'homme, ce que Dieu ne veut absolument pas. C'est ça une des choses que Dieu veut faire tomber, veut ôter à l'homme, cette habitude qui est inhérente à l'état de péché, de se consulter lui-même, et de prendre lui-même des résolutions sans demander à Dieu. Alors, une fois qu'il est engagé là, eh bien, le voilà parti en Égypte. En arrivant près de l'Égypte, il se dit, il y a quelque chose, alors là, il y a une difficulté que je n'avais pas prévue, c'est que, voilà, ma femme est belle de figure, et ces Égyptiens, on les connaît de réputation, dès qu'ils vont voir cette femme, ça ne va pas manquer, ils vont vouloir la prendre. Et moi, s'ils savent que c'est ma femme, ils vont me supprimer parce que le mari, ils n'en voudront pas. Le mari les gênera. Et alors, écoute, Sarah, dis que tu es ma sœur. Hein? Comme ça, tout va bien. Moi, je vais rester. Au contraire, je vais avoir des honneurs. Alors, dis que tu es ma sœur. Le mensonge intervient donc là comme une conséquence de la résolution première prise d'aller en Égypte, c'est-à-dire une résolution de la chair. Là est le péché. Le péché qui n'est pas moral, si vous voulez, n'est-ce pas? Il n'est pas moral. On pourrait dire même, c'est sage ce que Abraham a fait d'aller en Égypte. Non, c'est là qu'était le péché. Et une fois engagé dans cette voie charnelle, c'est une voie charnelle, nécessairement, les autres choses vont venir et le mensonge se présente. Et il n'y échappe pas. Il continue à raisonner. Il continue à raisonner. Ma femme est belle, les Égyptiens vont la prendre. Ça, c'est un raisonnement humain. Et il n'est plus question du tout de l'Éternel, ni de la bonne main de l'Éternel. Pas du tout. Vous voyez? Alors, le voici. Par conséquent, engagé dans un mensonge qui procède lui aussi du raisonnement. Et ce mensonge, eh bien, évidemment, n'est pas du tout agréable à l'Éternel, mais il ne faut pas tellement là le voir comme un manquement à la morale, celle dont nous sommes nous-mêmes à notre époque plus familiers, la morale chrétienne, mettons, n'est-ce pas? Il ne faut pas le voir comme cela, il faut le voir comme une conséquence d'une première erreur, déviation, et cette erreur est elle-même le péché. Le péché, en somme, qui va engendrer le mensonge, et le mensonge aurait pu engendrer autre chose, si Dieu n'était intervenu pour arrêter ce qui allait se passer, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en somme, agir sur le pharaon. Agir sur le pharaon, Dieu intervient, parce qu'il ne faut pas quand même que celui qu'il a choisi, celui dont il va se servir, se trouve engagé dans une filière qui, on ne sait pas ce qui serait passé après ce mensonge, si Dieu n'était pas intervenu. D'autres choses, d'autres mensonges, et puis des choses peut-être graves également, hein. Dieu intervient. Mais le mensonge, donc, intervient en conséquence d'une première faute qui est de ne pas avoir consulté l'Éternel et d'avoir agi selon la chair. Et d'une façon générale, généralisons, remarquons que le mensonge n'est souvent pas la faute initiale, mais qu'il est consécutif à une faute précédente. On ment parce que on s'est engagé à tort, et on veut couvrir cet engagement. On veut cacher quelque chose. On a besoin de dissimuler. Le mensonge est un moyen de dissimulation. Consécutif à une faute précédente, le mensonge vient par un engrenage, celui du raisonnement de l'homme naturel. Bonjour, monsieur. Hors la foi. Bon, alors, je laisse le second mensonge d'Abraham, il est du même ordre, devant Abimélec, et Isaac, d'ailleurs, le fils, n'a pas tiré, lui, le son de ce qu'a fait son père, et Isaac, vous savez, va rééditer le même mensonge. Bon, voyons maintenant le mensonge de Sarah. Et nous ne pouvons pas dire que nous avons... pour traiter ces mensonges, les comprendre et en tirer une leçon, nous ne pouvons pas dire que nous avons un cliché explicatif de tous les mensonges. Non, chaque mensonge intervient dans des circonstances particulières qui lui sont propres, et par conséquent, il doit être traité différemment, chaque mensonge doit être traité selon sa, on pourrait dire, sa spécificité. Alors, prenons le mensonge de Sarah. Voyons chapitre 18, le chapitre 18 est au verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, trois mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Alors attention à ça, Sarah écoutait à l'entrée de la tente, les hommes donc étaient là dehors, et celui qui parlait, qui était l'Éternel, tournait le dos à Sarah. C'est pas, Sarah le voyait de dos. Bon, ça c'est important, donc cet homme ne peut pas, cet homme, enfin je l'appelle homme aussi, est-ce que, comme dans le récit, et cet homme ne pouvait pas donc voir Sarah. Bien. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même, elle rit en elle-même, en disant, maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Bon, alors, essayons de voir cela. Tout d'abord, il faut se représenter une chose, si on veut bien comprendre ce qui s'est passé chez cette femme, Sarah. Il faut comprendre que l'annonce d'un enfantement à son grand âge ne pouvait que faire venir immédiatement dans la pensée de cette femme l'idée d'une impossibilité absolue. Là, je n'ai pas besoin de raisonner ça, n'est-ce pas? Elle a 80 ans, on lui dit qu'elle va avoir un enfant. Bon, alors, c'est quelque chose d'impossible, une chose humainement impossible. Bien. Si le texte du récit avait relaté une acceptation d'emblée de cette annonce par Sarah, c'est lui le texte qui n'aurait pas été vrai. Mais le texte est vrai, nous montrant que la réaction de Sarah, dit, moi je suis vieille, comment je pourrais avoir encore un enfant? D'autre part, Sarah n'avait pas discerné, c'est important aussi, elle n'avait pas discerné la nature supérieure des trois visiteurs. C'est pourquoi le récit nous dit que il regarda, voici trois hommes étaient debout près de lui. Pour elle, c'était trois hommes, trois voyageurs qui passaient là au début. Même Abraham peut-être n'a pas tout de suite discerné ce qu'étaient ces hommes. N'oublions pas que ceci, c'est que dans les évangiles, nous voyons très bien la même réaction. Les personnages ont des réactions comme celle qu'a eu Sarah. Par exemple, Marie, la mère de Jésus, dans le premier chapitre de Luc, eh bien, l'ange Gabriel, et là c'est un ange Gabriel, elle est consciente que c'est un personnage du ciel, et cet ange lui annonce qu'elle enfantera un fils. Et ce qu'elle dit tout naturellement, mais comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. Je ne suis pas marié, je ne suis pas fiancé, je suis pas marié, je ne connais pas d'homme. Hein, comment cela peut-il se faire? Pas possible ça. Vous voyez, immédiatement. Bon, les apôtres, eux, non plus, ne croient pas spontanément à la résurrection de Jésus. Ils ne croient pas. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passages qui, dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les quatre évangiles, nous montrent que les apôtres ne croient pas. Ils prenaient les propos de ces femmes pour des rêveries. Il ne croit pas la résurrection. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, c'est que les hommes, et nous aujourd'hui dans l'Église, cela se produit encore malheureusement pour nous qui devrions être des hommes de foi, des hommes et des femmes de foi, eh bien, tous les hommes sont attachés aux possibilités connues. Possibilité connue, possibilité des choses connues en notre monde. Et que ce n'est pas facilement que l'on parvient à conformer sa pensée à des faits d'ordre surnaturel. Hein, le premier, conformer sa pensée à des faits d'ordre surnaturel, à moins qu'on aime, on ait du goût pour les rêveries, pour un, enfin, mais sans ça, dans la logique de l'homme, ça peut pas être spontané. Enfin, on ne croit pas aux choses surnaturelles. La nature humaine se refuse à accepter d'emblée des faits surnaturels. En somme, croire, la foi qui est en ce domaine, le croire, doit bousculer, il faut que la foi bouscule la nature humaine. Alors, ceci étant dit, revenons à Sarah. Ne lui demandons pas donc de croire spontanément à une prédiction aussi improbable que celle d'une naissance pour une femme de 80 ans. Ne lui demandons pas quand même ça. Dieu ne lui demande pas ça non plus. D'abord, c'est une chose, évidemment, ça vient subitement comme ça, ces trois hommes sont là, Sarah ne sait pas encore qui ils sont, et elle entend l'un d'eux dire qu'elle aura un fils l'année prochaine, eh bien, évidemment, elle dit, moi, comment j'aurai un fils, moi qui suis? Ben, c'est pas possible, ça, quoi. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas accepter. Mais soudain, l'un des impressionnants visiteurs demande pourquoi elle rit. Et il dévoile la pensée qu'elle a eue. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Pourquoi Sarah a-t-elle ri ? Et ce visiteur sait, connaît sa pensée, la pensée qu'elle a eue. Et d'autant plus qu'elle avait ri en elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas eu un rire bruyant, elle n'avait pas eu un rire qui s'était entendu. Elle avait ri en elle-même et elle avait aussi parlé en elle-même. Elle n'avait pas parlé à haute voix. Et alors, voici que ce visiteur sait qu'elle a ri, il sait qu'elle est, quelle a été sa pensée, le motif de ce rire, il sait tout cela, il n'a pas vu, il n'a pas pu entendre, il n'a pas vu puisqu'il tournait le dos, il n'a pas pu entendre non plus, elle n'a pas parlé à haute voix, et il sait. Alors, réalisons ça, n'est-ce pas? Voilà, tout de suite, devant quelque chose de surnaturel. Ah, ça c'est, il n'y a pas de doute, ces hommes-là sont des hommes, sont des personnages particuliers. Là voilà devant quelque chose de surnaturel, et elle eut peur, et elle a peur. C'est toujours le réflexe de la nature humaine, elle a peur. Bien. Alors, la peur qui est ce réflexe humain, presque incontrôlable, fait tout simplement que elle nie, elle ment. Non, je n'ai pas ri, comme un petit enfant surpris en mal, n'est-ce pas, qui a peur. Vous voyez, non, je n'ai pas ri. Non, c'est pas vrai, j'ai pas ri. Non. Elle sent que d'avoir ri, c'était quelque chose qui tout à coup devient coupable. Non, je n'ai pas ri, elle ment. Et alors, nous voyons que l'Éternel ne se formalise pas outre mesure de ce que Sarah mentit en disant « je n'ai pas ri », car elle eut peur, mais il dit « au contraire, tu as ri ». Et il a insisté aussi au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Au contraire, tu as ri. Donc l'Éternel dénonce le rire et le doute, le mensonge, le rire, le doute de Sarah, non pas pour la réprimander, mais tout simplement parce que il faut arriver à ce que Sarah croit à cette annonce du fils. L'Éternel a donc dénoncé le rire de Sarah afin que l'annonce d'un fils soit prise au sérieux. Il faut qu'elle soit prise, il faut qu'elle soit reçue par la foi. C'est entendu, au premier abord, l'être humain ne peut pas. Mais c'est pourquoi l'Éternel insiste. Ce n'est donc pas une réprimande. Pas les réflexes de l'homme tel qu'il est, tel que l'Éternel le voit, eh bien, ne donnent pas lieu immédiatement à des réprimandes. Les réprimandes ne viendront que plus tard, quand l'homme sera éclairé. Mais là, il s'agit que l'annonce d'un fils soit prise au sérieux et que Sarah, comme son mari, y attache sa foi et son attente. Il faut qu'elle attende ce moment fixé de l'année suivante pour... Il faut qu'elle l'attende, il faut qu'elle attende, qu'elle soit heureuse d'avoir un fils. Donc, il n'était pas question de punir le mensonge châtié, qui est le réflexe inévitable de l'homme, devant, dans une situation telle que celle où Sarah se trouve, n'est-ce pas? C'est un réflexe, l'homme est comme ça, il a le péché en lui, et le péché est un mécanisme qui produit des choses comme ça, et qui produit des mensonges, sous la pression de la peur, tout simplement. C'était la réaction de la chair, qui ne sera vaincue que plus tard. Donc il s'agissait pour Dieu de mettre son plan en place. Il fallait qu'Abraham eût un fils de Sarah, de sa femme Sarah. Il fallait mettre le plan de Dieu en place, plan auquel la chair ne peut pas s'associer. Et l'Éternel ne cherche pas à associer la chair à son plan. Il faut que dans le cœur d'Abraham et de Sarah, lors de cette visite, et elle est faite pour cela, cette visite, en laissant de côté la question de Sodome, il faut que, donc, dans le cœur d'Abraham et de Sarah, naisse quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une foi qui va s'attacher à une promesse apparemment irréalisable. Et Paul nous en parle dans les Romains. Abraham est arrivé, malgré son grand âge, à croire qu'il aurait une descendance parce qu'il s'est attaché à la promesse de Dieu. Et c'est pour ça, la visite, il fallait arriver à ça. Et il fallait passer par les petits accros du mensonge, du rire et du mensonge de Sarah, qui sont des réactions tout à fait naturelles. Mais ensuite, vous voyez que Hébreux, chapitre 11 et verset 11, nous dit que Sarah eut la foi. Donc, les choses changèrent à ce moment-là. Dieu fait un travail d'éducateur, nous le voyons déjà là, n'est-ce pas, travail d'éducateur, avec patience, pour éveiller la foi des cœurs. La foi des cœurs est là, il s'agit du croire, il s'agit de saisir, une promesse qui est quelque chose d'impossible, d'improbable, absolument improbable, d'impossible. Il s'agit de saisir ça, et l'Éternel y est arrivé, c'est pourquoi il a dit, mais au contraire, tu as ri. Et il renouvelle l'année prochaine, tu auras un fils. Voilà, donc pour Sarah, vous voyez qu'il ne faut pas tout à fait juger les choses sous le jour de cette morale dont nous avons été, nous, à notre époque moderne maintenant, imprégnés, et que d'ailleurs toute la terre s'évertue à rejeter maintenant.